bénissons toutes les personnes qui sont avec nous, unies au travers d'Internet et qui suivent ce culte. Et nous bénissons aussi tous les saints rassemblés partout dans le monde pour offrir à Dieu un culte qui lui soit digne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, bien entendu, nous sommes touchés par la vérité, par toutes ces paroles, par toutes ces louanges, par la présence de Dieu et aussi notre propre présence. L'Église commence là où deux ou trois sont unis au nom du Seigneur. Ça veut dire que tu n'es jamais seul et à seul, tu ne peux pas constituer l'Église. Une seule personne ne peut pas être un peuple pour Dieu. Dieu veut un peuple. Donc ça veut dire que lorsque nous nous rassemblons, nous devons considérer aussi la présence des uns des autres comme faisant partie de la présence de Dieu. Parce que Dieu est venu pour pouvoir se former un peuple qui lui appartienne. Dieu est saint et il forme des saints. Et tu n'es pas saint tout seul. Surtout la justice ne se pratique pas là où on est seul. La justice se pratique au contraire là où ton prochain peut enfin bénir le Seigneur à cause de toi. Donc ce matin, nous sommes bénis aussi d'être ici les uns les autres pour pouvoir glorifier le Seigneur, pour pouvoir faire vivre l'Église, pour libérer l'espérance, pour incarner la justice. Il faut des gens pour ça. Il faut des gens qui croient et qui pratiquent pour que Dieu puisse régner. Sinon, le monde est livré au règne du diable et de l'injustice. Et pendant que nous étions en train de proclamer tout à l'heure avec Pasteur Jocelyne, nous avons dit, Seigneur, sois béni. Et ce mot a résonné et a réagi. Seigneur, sois béni. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ce que veut dire Seigneur, sois béni? Est-ce que tu le réalises? La Bible dit, bénissez l'Éternel. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu es là pour bénir ton Dieu? Pour le bénir, lui qui est béni et qui est la source de ta bénédiction. Dieu te donne même le privilège de bénir Dieu, de proclamer son nom, de le bénir. Bénir le Seigneur. Que toi, tu puisses bénir le Seigneur. Que ta vie puisse bénir le Seigneur. Si Dieu le dit, c'est qu'il y a une réalité spirituelle à cela. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous ne bénissons pas Dieu. Il y a quelque chose qu'il ressent. Il y a une injustice. Il y a une injustice. Parce que l'homme dans le péché s'empresse de bénir le diable, de bénir des faux dieux. Et dans l'avidité, il cherche sa bénédiction. Il veut être béni. Si toi, aussi pécheur que tu sois, tu veux être béni. Mais combien de fois le juste, c'est à lui que revient la bénédiction. Tu veux lui priver d'être béni. Mais ce matin, tu l'as dit, Seigneur, sois béni. Je voudrais tout simplement que tu le comprennes, parce que ça sera juste si tu apprends à bénir l'Éternel toute ta vie, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, que Jésus soit béni. Qu'il soit béni dans ta maison, dans ta famille. Que Jésus soit béni là où tu es. Parce que tu sais que mon Dieu doit être béni. Je le bénis. Et tu apprendras même à d'autres à bénir ton Dieu. Nous lisons le psaume, nous voyons tout ce que David dit. C'était des hommes et des femmes comme toi dans la Bible, qui non seulement ont reçu la révélation, mais qui ont eux-mêmes proclamé et vécu la révélation. Ils ont compris qu'il fallait bénir Dieu. Ils ont donné leur vie pour le Seigneur, véritablement. Nous sommes concernés. Voici ce qui est écrit dans le livre de Jean 16. à partir du verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Maintenant veut dire beaucoup. Maintenant veut dire beaucoup. Veut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. Maintenant veut marquer un temps nouveau. Maintenant veut accomplir quelque chose. Maintenant doit changer la réalité. Maintenant. Maintenant veut dire qu'il y avait avant. Et on place un maintenant. Maintenant s'impose dans le vécu, dans les jours, dans ce qui se fait. On dit maintenant. Et lorsque Jésus dit « Maintenant je m'en vais », ça signifie beaucoup. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé veut dire que je suis venu en mission. Je ne suis pas venu pour faire du tourisme. Je ne suis pas venu parce que tellement vous m'avez demandé. Je ne suis pas venu parce que tellement vous m'avez aimé. Je suis venu parce que j'ai été envoyé et j'ai accepté la mission. J'ai fait la mission. Parce que je vous aime. J'ai donné ma vie. J'ai cherché votre bénédiction. Je suis venu pour vous secourir. Pour vous donner la liberté. Parce que vous étiez esclaves, dominés par un plus fort que vous. Je suis venu. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. La question que nous pouvons nous poser ce matin, à quoi servaient les synagogues de l'époque où Jésus était là? À quoi servait le temple? À quoi servaient les synagogues? Pour tous ces gens, pour tous ces sacrificateurs, ce souverain sacrificateur, à quoi ça servait ces choses lorsqu'ils se sont manifestés de cette façon-là vis-à-vis de la vérité? Lorsqu'ils se sont manifestés avec autant d'injustice, autant de méchanceté, à quoi servaient ces synagogues? On se retrouvait, pourquoi? On parlait de quoi? Quel était l'objectif? De quoi le peuple était enseigné? Voilà. Jésus, il était là. Nous savons qui il est. Il est le juste. Il est le juste. Et pourquoi a-t-il été ainsi rejeté au point de prendre plaisir en sa mort, de le livrer? Pour les gens qui allaient à la synagogue tous les jours. Et je me pose la question, à quoi servent nos assemblées? Oui, à quoi servent les cultes, les rassemblements, si nous n'avons rien à apprendre? Le monde, c'est un monde d'injustice. Nous l'avons compris. Oui. Le diable, c'est l'esprit de l'injustice. Et il est venu sur la terre pour établir l'injustice. Donc tout le monde est victime. Qui ici peut dire que j'ai échappé à l'injustice de ce monde? Tu n'as pas échappé du tout. C'est les affres de l'injustice qui justifient combien on a besoin de travailler pour ta délivrance. Depuis ta prime jeunesse, tu as été impacté par l'injustice. Tu as été conçu dans l'injustice. Ah, il faut le réaliser. Et c'est bien pour ça que nous-mêmes ici, on sait qu'on est ici à l'église aussi comme dans un hôpital. Il faut des traitements. On essaie de sauver les vies en danger à cause de l'injustice qui remplit ce monde. L'injustice dans les familles, l'injustice dans les couples, l'injustice dans ta propre vie. Tes pensées sont remplies d'injustice. La colère, la méchanceté, c'est l'œuvre du diable. Il n'y a pas de justice en lui. Il est venu pour l'injustice et il se glorifie lorsqu'il voit le règne de l'injustice. Mais Jésus est venu pour rétablir la justice parce qu'il est juste. Mais lorsque Jésus est là au milieu de son peuple, au milieu d'une telle contradiction, devant une telle opposition, un tel mépris, on voit bien l'ampleur de la justice au milieu du peuple de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu, des souverains sacrificateurs. Regardez l'ampleur de la justice, de l'injustice. Mais Jésus est venu pour ça. Il a travaillé. Mais maintenant, il dit, bon, maintenant, je vais m'en aller. Maintenant, tout est accompli. Maintenant, je vais m'en aller. Oui. Lorsque vous êtes juste, votre réalité, c'est la justice. Votre environnement, c'est la justice. Ce que vous aimez, c'est la justice. Ce qui vous réjouit, c'est la justice. Donc on voyait bien Jésus, lorsqu'il voyait déjà les semences de son œuvre, des gens qui manifestaient la justice, la compassion, on voyait tout son bonheur, on voyait toute sa joie. Mais au quotidien, la méchanceté, toutes ces choses, maintenant il dit voilà, ça suffit. Ça suffit. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, vers celui qui est juste, vers là où on se réjouit de la justice. Je repars dans mon élément. Je repars dans ma joie, dans mon règne, là où on contemple la justice, là où on se réjouit de la justice. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il n'y a pas de justice lorsqu'il n'y a pas conviction de péché et rémission de péché. Il n'y a pas de justice si tu ne sais pas c'est quoi la sanctification. Il n'y a pas de justice lorsque tu penses que le péché qui gangrène ta vie est néanmoins quelque chose que tu acceptes. Parce que le péché va infecter tes pensées. Tout ce que tu crois être juste n'est pas juste. Oui. Parce que lorsque le Seigneur dit que votre justice est comme un vêtement souillé, mais ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre nous disent, j'ai raison. Oui. Tu as raison tout simplement parce que l'autre est plus coupable que toi. Parce que tu peux démontrer qu'il m'a trahi, il m'a fait ceci, il m'a fait telle chose. Donc tu te dis que je suis juste. Et la justice du monde qui est aveugle en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne l'état d'esprit, va constater les faits pour dire, ben oui, toi on t'a attrapé avec un tel. Oui, tu es dans le tort, tu vas aller en prison. Elle a subi un préjudice. Et si vous savez des gens qui ont reçu des dommages et intérêts qui sont coupables jusqu'au cou. Mais oui. Et des gens qui sont jetés en prison et qui n'ont pas commis les faits. Combien de fois on entend aux États-Unis quelqu'un allait être décapité, finalement l'ADN a prouvé que ce n'est pas lui. C'est ça, la justice qui est souillée. Et quand mon épouse était en train de nous expliquer, nous tous, nous pouvons le comprendre. Parce que, mais, il y a des personnes ici qui n'ont plus de permis de conduire. Tu n'as pas de permis de conduire parce qu'on t'a attrapé tellement de fois en flagrant délit, de brûler les feux ou de telle sorte qu'on t'a enlevé tous les points. Bon, ça veut dire que tu es coupable. C'est démontré. De mauvaise conduite, d'infraction au code de la route. Et la justice te condamne en t'enlevant tous les points. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui ont tous leurs points sont tellement exempts de reproches par rapport au code de la route? C'est la limite de la justice du monde qui fait que lorsque tu brûles le feu, on ne t'a pas vu. Et il y a des gens aussi qui ont dans leur voiture, des appareils qui leur permettent de savoir où est le radar. Et pourquoi ils ont cet appareil? C'est pour réduire la vitesse là où est le radar. Ça veut dire qu'eux aussi roulent au-delà de la voiture, de la vitesse autorisée. Donc c'est pas parce que, et ce n'est même pas parce que ton casier judiciaire est vierge, mais ta vie n'est pas si vierge que ça. Il faut le réaliser, il ne faut pas, parce que nous aussi, on peut être comme des païens justement, de se dire, moi je suis juste, hein. Regarde mon casier judiciaire, mais tu te moques de qui? Si tu parles là devant Dieu, le Seigneur a dit à ces juifs qui sont venus, dire, mais tu as vu ce qui s'est passé? Pilate a tué les gens, il a mêlé leur sang à leur sacrifice. Il dit, vous croyez qu'ils étaient les plus coupables que les autres? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également dans vos péchés. Il faut réaliser. L'homme doit se repentir. Le Saint-Esprit te convainc. Tes péchés, ce n'est pas ce que les autres t'accusent. Parce qu'ils ne sont pas capables de voir la vérité de ta vie. Le péché, c'est ce que le Saint-Esprit te convainc que tu pèches. Par exemple, prenons une femme. Ton mari t'a trompé. Il est coupable. Bien sûr qu'il va dire qu'il n'est pas coupable. Maintenant, lorsque toi, tu vas accomplir ta justice à toi, et que maintenant, tu montes sur ton cheval de je ne sais pas quoi pour vouloir maintenant tout casser, tout, lorsque tu fermes ton cœur, lorsque maintenant tu deviens amer, et que le Saint-Esprit te convainc que tu pèches, qu'il faut pardonner. Mais selon la justice du monde, tu peux même dire que, mais oui, je veux divorcer. C'est écrit que pour raison de ceci, cela et tout, Moïse a donné le truc pour pouvoir que l'on puisse, je ne suis plus tenu par cette relation. Le Saint-Esprit te dit, tu pèches. Pourquoi? Mais parce que la miséricorde, c'est pour qui? C'est pour les païens? La miséricorde, c'est pour qui? Mais si tu veux marcher dans la justice, tu vas comprendre l'importance de la miséricorde. Parce que sans miséricorde, qui aurait pu être sauvé? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous raisonnons comme ça, nous démontrons nous-mêmes que nous sommes des païens. Voilà, que nous sommes des païens. Parce que le Seigneur a dit à ses apôtres, il dit que votre justice soit plus grande que la justice des pharisiens. C'est-à-dire les hypocrites. La justice des hypocrites. Nous savons tous que lorsque nous reconnaissons qu'on a fait quelque chose de mauvais, nous savons tous que nous aspirons au pardon. C'est l'aspiration de notre cœur de rechercher le pardon. Mais lorsque nous refusons nous-mêmes le pardon, ne sommes-nous pas injustes par rapport à l'aspiration même de la vérité? Où Dieu a besoin de régler les problèmes et de ne pas maintenant penser que chaque problème doit emmener toujours une catastrophe derrière.
Voyez, c'est un aveuglement par rapport à la vérité. Et en même temps, tu dis, Seigneur, tu vois. Oui, mais le Seigneur voit que lui qui est innocent de quelconque péché a accepté d'aller à la croix parce que l'amour impose que tu donnes ta vie pour ceux que tu aimes. L'amour impose. L'amour, est-ce que l'amour est juste? Non, mais est-ce que l'amour est juste? Parce qu'on peut, nous, on peut penser que l'amour est injuste. Oui, l'amour est injuste. Je n'ai rien fait et c'est moi qui dois payer. Mais regardez vous-même l'histoire de l'enfant prodigue. Regardez le fils aîné. Regardez le fils aîné. Le frère cadet qui est allé manger tout son pain avec les prostituées, qui revient et on va faire la fête pour lui. Mais cette justice-là paraît juste à nos yeux. Lui, il se dit cela, lui ne mérite pas, lui, il se dit cela, lui. Mais lorsque maintenant, le père dit, mais est-ce que ton frère ici qui était mort, qui est revenu à la vie, n'allons pas nous réjouir pour cela? Mais oui, mais moi, je travaille pour toi. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Ah, on commence à voir ce qui est dans son cœur. Tu trouves que ton père est méchant. Il ne t'a pas donné le chevreau. Pourquoi tu n'as pas demandé le chevreau? Il dit, mais tout ça, c'est à toi. Hein? Parce que l'injustice, elle est d'abord dans les pensées. C'est la façon dont tu penses que l'on va voir si tu es juste ou pas. Vous savez, nous les chrétiens, nous les croyants, par la grâce de Dieu, à cause du Saint-Esprit, Dieu nous épargne beaucoup de choses. Dieu ne t'a pas permis de réussir dans toutes tes mauvaises entreprises, sinon tu serais coupable aux yeux de tous. Oui. Tu voulais entreprendre l'adultère, non? Dieu t'a bloqué à la dernière minute. Oui. Il faut le réaliser. Dieu fait échec à beaucoup de choses pour nous aider. Mais tu étais parti pour ça. Si tu étais toi aussi livré comme ceux qui n'ont pas Dieu, tu aurais fait ces choses. Et lorsque je dis ça, je ne suis même pas en train de dire que les chrétiens ne le font pas. Je parle de celui qui a entrepris et que Dieu n'a pas permis. Et qui maintenant se prétend d'être meilleur que celui qui est tombé dans ces choses. Il faut se repentir. Il faut réaliser que Dieu t'aide. Et il voudrait continuer à t'aider. Mais il faut changer. Parce qu'à un moment donné, l'hypocrisie, à un moment donné, va mettre un voile de séparation entre toi et le Seigneur. Tu risques d'expérimenter les choses qui sont au fond de ton cœur si tu ne t'humilies pas devant la vraie justice. Oui. Le monde, c'est un monde d'injustice. Nous le voyons. Le diable fait des ravages. Faut-il que nous aussi, nous ne comprenions pas c'est quoi la justice ? Faut-il que nous aussi, nous puissions nous désolidariser du juste pour nous aussi pratiquer notre petite justice? Notre petite justice. Il faut être solidaire totalement avec le Seigneur, avec son sacrifice, pour réaliser que l'homme a besoin de s'humilier. Sinon, la manipulation du diable qui attaque ton intellect et qui commence à mettre en toi des forteresses de raisonnement. Oui. Le diable, c'est le champion pour impacter l'intellect de l'homme. Voilà. Son allié, c'est l'intellect. Il te donne des raisonnements intellectuels. Tu es intellectuellement sain. Intellectuellement juste. Spirituellement. Tu es mort, tu sais pas dans quoi tu es. Tu sais pas dans quoi tu es. La vérité. Voici le maître mot pour lequel Jésus est venu. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui était dans la vérité. Il n'y avait personne qui rendait témoignage à la vérité. Tu as beau être qui tu étais, souverain sacrificateur, tu n'es pas dans la vérité. Moi, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Voilà, et c'est bien pour ça, le monde de ténèbres ne veut pas la vérité, c'est bien pour ça qu'il fallait le clouer et s'en réjouir. Voilà, maintenant le Seigneur dit, maintenant je m'en vais, maintenant je m'en vais. Mais bien sûr, l'amour l'engage L'amour le lie à nous.
Donc il dit, je vous enverrai le consolateur et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il nous a épousés. Et l'époux est là pour l'épouse. L'époux est là pour que l'épouse soit belle. Et l'épouse est là pour épouser l'époux. L'époux est celui qui sort l'épouse de sa condition, de la réalité de ses parents, de la vie d'avant. Elle devient madame un tel. Ça veut dire que nous qui sommes ici en tant qu'épouse du Seigneur, nous sommes madame Jésus-Christ. Oui. Et nous devons l'épouser. C'est lui qui doit nous impacter. C'est sa nature qui doit nous c'est sa justice qui doit descendre sur nous. Maintenant même, on apprend que dans cette génération, on ne veut même plus des madames, des mademoiselles. Il faut laisser tout ça comme ça. Chacun porte son nom et tout ça. Voilà, on veut la confusion générale. Toutes ces choses ne sont pas bonnes. On ne veut quoi ? On ne veut plus que l'épouse aussi puisse épouser l'époux. Mais pour vous, c'est quoi le problème ? On a un problème avec la vérité. On a un problème avec la vérité. C'est quoi ? Quelqu'un s'est levé pour une femme et l'a épousée. Pourquoi vous voulez l'empêcher de porter le nom de son mari ? Oui, c'est quoi ? Si vous avez un problème avec ça, fondez votre monde à vous. N'entraînez pas tout le monde dans ça. Il ne faut pas se laisser distraire. La séduction ne mène nulle part. Ça amène à la confusion. On veut la confusion générale, chacun veut légitimer son injustice, veut légitimer son abomination, avoir la conscience tranquille que nous tous on est dedans, et puis après chanter, nous irons tous au paradis. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous n'allez pas réussir à me plonger dans vos histoires, dans votre hypocrisie des religieux ou tout ça là. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de ce qui est péché, justice et jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà. L'homme est dans le péché parce qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu peut le délivrer. Oui. Mais si tu ne crois pas dans celui qui peut te rendre juste, tu restes dans ton injustice. Vous périrez. Tu vas périr dans tes péchés. Et tu verras là où tes péchés vont t'emmener. Oui. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que Dieu a trouvé la solution au problème du péché. C'est de pouvoir envoyer celui qui peut effacer tes péchés. Parce que ce que tu as déjà commis, tu l'as commis. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'à cause du péché, la mort est venue sur l'homme pour l'éloigner de Dieu. Donc ça, c'est la mort. C'est-à-dire séparer d'avec Dieu, ça veut dire que ton âme va aller souffrir dans les ténèbres parce que tu n'as plus la lumière. Ça, c'est ce que le péché a produit dans l'humanité et dans ta vie. Donc les choses commises, les forfaits commis, la justice est là pour constater que tu as fait ces choses. Et à cause de ces choses qui ne sont pas la nature de Dieu, tu ne peux pas être avec Dieu. Donc, c'est ça ce que les choses que tu avais déjà faites. Donc, Dieu trouve une solution pour envoyer celui qui est capable, par son sang, d'effacer tes forfaits, de payer le prix de ces choses, de ces iniquités, pour pouvoir à nouveau que le bénéfice de la justice vienne sur toi. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il fait. Il ne s'agit pas seulement d'effacer tes péchés d'avant. Mais oui, parce que tu vas en commettre encore. Il faut qu'il soit en même temps capable de t'enseigner la justice et de te faire marcher dans les voies de la justice auxquelles le diable voulait t'en détourner toute ta vie. Donc, ce n'est pas seulement que Jésus efface tes péchés. Il doit te donner aussi la capacité de marcher dans la vraie justice, de marcher dans la vérité, d'aimer Dieu, de vivre une autre vie. Donc on ne peut pas attacher la justice au simple fait d'être pardonné. Parce que la justice doit produire un fruit. Et ça, c'est pour les chrétiens qui croient que
Il suffit de venir à l'église ou même de s'éloigner de certains péchés. Ça veut dire que tu ne commets plus d'adultère, tu ne vas pas aller voler quelqu'un. Donc devant les gens, on peut se dire que ça c'est un homme de bien, mais tu peux continuer à penser de n'importe quoi et surtout ne pas t'impliquer par rapport à la justice. Tu ne comprends pas que l'orphelin crie à Dieu et que c'est une injustice. Tu ne comprends pas que tu dois porter cette œuvre de justice. Parce que Dieu veut la justice pour les fils des hommes. Lorsque l'orphelin est là abandonné à lui-même, parce qu'il n'a pas de parents, est-ce qu'il ne subit pas là une injustice? Le Seigneur dit qu'il donne une famille à celui qui n'a pas de famille. Mais si maintenant Dieu compte sur son peuple pour produire la justice, et si son peuple est si stérile, si inconscient, par rapport à la justice, donc la justice sera stérile. Donc l'œuvre du Seigneur sera stérile. Père, parce que Père, vous ne pouvez louer un arbre que parce que vous mangez son fruit. Et que vous dites que ça, cet arbre est bon. Donc tu dis, bénissez le Seigneur. Seigneur, sois béni. Comment tu le bénis? Il sera béni comment dans ta génération? C'est lorsque même les païens vont dire, Dieu est bon. Parce que toi, tu auras accompli la justice de ton Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. Et le disciple est là pour accomplir l'œuvre de son maître. Oui. J'aimerais que nous puissions comprendre véritablement c'est quoi la justice. C'est-à-dire que la justice pour toi, c'est déjà de considérer que Jésus mérite bien plus que ce que tu crois pouvoir lui donner. Mais il mérite la gloire. Et c'était totalement injuste qu'il soit ainsi vilipendé, rejeté par les malfrats qu'il est venu sauver. Et après avoir accompli son œuvre, la Bible dit qu'il se réjouira à la vue de son œuvre. Il se réjouit de l'Église. C'est-à-dire qu'il a souffert, mais il se réjouit de voir l'Église porter du fruit. Il dit, c'est quand vous portez du fruit que mon Père est glorifié. Donc, il se réjouit de l'œuvre qu'il a accomplie, de voir que les ténèbres reculent. C'est-à-dire que l'homme revient dans la justice. L'homme revient dans la vérité. Il se réjouit. C'est son travail, c'est son œuvre. Donc, nous ne pouvons pas être comme les hypocrites qui étaient supposés être le peuple de Dieu pour pouvoir se réjouir du Fils de Dieu. D'ailleurs, lorsqu'ils ont été invités pour venir à la salle des noces, ils se sont défilés. Oui. Et il est venu vers nous. Il dit, appelez-moi tous les malfrats là. Appelez-les. Je vais les sanctifier. Donc, il nous a sanctifiés. Et le Seigneur dit, maintenant, le royaume sera donné à ceux qui sauront en rendre le fruit. Et même qu'Israël sera jaloux de voir combien ceux qui étaient les malfrats deviennent le peuple de Dieu, manifester les attributs de la sainteté du Dieu d'Israël, devenir des fils et des filles pour Abraham. Oui, c'est ça le challenge de l'Église. Jusqu'à rendre jaloux Israël, qui est le peuple de Dieu, pour voir. Mais ce sont les attributs de notre Dieu. C'est devenu leur Dieu. Alors qu'ils pensaient que les autres sont condamnés à être dans du nain. Non, il faut qu'ils voient la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit qu'un temps viendra, lorsque Israël reviendra dans la révélation, il y aura un grand deuil en Israël, lorsqu'ils vont réaliser que celui que nous avons percé, c'est l'Éternel, notre Dieu. Que c'est lui le Messie, il n'y a pas un autre qui viendra. Il y aura un grand deuil. Ils seront dans l'affliction parce qu'ils aiment leur Dieu. Mais l'injustice les avait aveuglés. Oui, il faut réaliser. Notre privilège, c'est d'aimer le Seigneur. Notre privilège, c'est de le glorifier parce que c'est juste de glorifier un Dieu aussi bon. C'est juste de glorifier celui qui donne sa vie pour les autres. C'est juste de bénir celui qui nous donne la vie. C'est ça notre privilège. Toi, tu crois que tes privilèges, c'est quoi en tant que chrétien? c'est pas d'être à la, c'était d'être à la place qui ne t'était pas réservée, que, auquel tu ne pouvais pas accéder. C'est de venir t'asseoir à la table des rois. Oui, c'est de revêtir la sainteté d'Israël. Oui, c'est de recevoir l'héritage d'Abraham sur toi. C'est ça ton privilège. C'est cette foi-là que Dieu demande. Oui, cette foi ferme pour ne plus te laisser aveugler par l'injustice et continuer à pratiquer du n'importe quoi. Non, tu dois au contraire prendre plaisir que avant j'étais esclave, maintenant Dieu m'a délivré, maintenant je veux pratiquer les œuvres de justice, maintenant je veux être disciple de Jésus, je veux bénir. Oui, je veux bénir celui qui m'a délivré. Et il y aurait beaucoup de joie dans l'église. On ne serait pas en train de traiter pas mal de problèmes qu'on traite dans l'église. Ah ben oui, mais l'époux et l'épouse, du n'importe quoi à longueur de journée, les familles traumatisées. Mais où est la justice du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est au milieu de toi? Oui. Est-ce qu'on peut prendre plaisir à une autre vie que la vie que le diable nous a sujettissée? Oui. Est-ce qu'on peut prendre plaisir à la vérité? Qui est le fait d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous pouvons vraiment bénir le Seigneur? C'est-à-dire, la loi dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à cause de ce manque d'amour qu'il en découle toute une vie de péché et de ceci, de cela, par manque d'amour. Nous nous détournons de Dieu pour aller suivre des idoles. Par manque d'amour, tu te fais coupable parce que tu suis maman au lieu que de suivre ton Dieu. C'est par manque d'amour que toutes ces choses sont là. On ne réalise pas c'est quoi bénir le Seigneur. On ne réalise pas. On ne réalise pas que c'est... Mais le Seigneur... Mais tu veux bénir le Seigneur. Tu veux lui donner une louange. Il va falloir se lever. Quel est le roi ? Maintenant qu'il arrive ici, on commence à faire des choses un peu comme ceci et qu'on va dire le roi va sortir d'ici tellement satisfait et prendre des décrets en notre faveur. Mais on ne se rend pas compte. Il est juste que Jésus soit élevé, que chacun de te lève, comme David dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire qu'il faut se repentir déjà de tes péchés. Parce que ça t'aveugle, ça t'empêche de voir qui est Jésus. Et ça te fait faire des choses d'une certaine manière. Il faut déjà se repentir. Et du coup, tu vas réaliser. Tu es digne. Oui, nous l'avons dit ici. Digne est l'agneau. Mais digne de quoi? Digne de quoi? Digne de quoi? Tu le rends digne de quoi dans ta vie? Mais il est digne devant les anges. Oui, les anges le savent. Il est digne. Il est digne. Tu es l'agneau. Les 24 vieillards, ils prennent leur couronne, ils jettent. Nous ne sommes pas dit. Ceux qui sont parvenus à la sainteté, à tout, ils se prosternent devant l'agneau. Les séraphins, ils se couvrent le visage. On ne peut pas le fixer. Oui, eux, ils peuvent dire digne. Ils lui donnent la dignité. Mais toi, est-ce que tu médites ces choses? Est-ce que toi, tu te bouges vraiment pour Jésus? Oui, c'est quoi ta justice? Parce que ça, ce serait une grande justice pour toi. De voir comment tu te bouges pour ton Dieu, pour le rendre digne au milieu de ta génération. Oui, ça, on verrait que vraiment, ça, c'est juste de voir des gens qui élèvent le nom de Jésus, alors que le diable veut se pavaner. Que les gens qui élèvent vraiment le nom de Jésus au point où les plus jeunes apprennent véritablement à honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur dans ta maison. Honorer le Seigneur dans ta vie au-dessus de toute chose. De telle sorte que le Seigneur prenne plaisir à être avec toi. Regardez, le Seigneur, dans toute sa vie, de tribulation, prenez plaisir à aller chez Marthe, Marie et Lazare. Il allait se reposer là-bas. C'était ses amis. C'était des gens qui l'aimaient. Oui. Oui, tu es Dieu, tu es toutes ces choses, mais Dieu a un cœur. S'il aime, c'est qu'il veut être aimé. Voilà. À un moment donné, lorsque tu as fait ce que tu fais pour aider les malfrats, tu veux un peu t'échapper pour aller au milieu des gens qui t'aiment, qui ont des bonnes pensées de toi. Seigneur, viens dans ma vie. Regarde l'état de tes pensées. Regarde l'état de tes pensées. Il va venir pour t'aider, pour dire, bon, abandonne ça pour que ça arrive là. Bon, règle ce problème-là comme ça. Il vient parce qu'il travaille, parce qu'il est là pour faire ces choses. Mais est-ce qu'il viendra pour s'asseoir, comme il dit, je viendrai, je souperai avec toi. Est-ce qu'il viendra pour te dire, bon, vraiment, tu sais, moi, Dieu, dans cette génération, vraiment, je veux faire telle œuvre. Est-ce qu'il viendra comme ça ou il viendra seulement dire, bon, voilà, hé, toi, Satan, dégage. Il fait son travail et puis, bon, voilà, maintenant, fais attention. Et puis, il repart et s'asseoir dans le lieu où la communion, l'adoration et tout. Tu as besoin de faire place. Tu as besoin de faire place. Tu as besoin d'être en relation d'amour avec le Seigneur. Tu as besoin de t'affranchir. Tu as besoin, toi, de t'élever dans la justice de Dieu. Tu as besoin de comprendre cette dimension qui t'est donnée. Tu as besoin de pouvoir revêtir la justice de Dieu et tu seras avec le juste. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Le Seigneur nous aime et le monde doit bénéficier de ta consécration. Ta famille a besoin que Jésus soit au milieu d'elle par toi. Dieu rentre par une porte, pas par la fenêtre. Mais il faut une porte. Est-ce que tu peux devenir cette porte-là?
Amen.
Oui. Toutes ces choses sont à ta portée. Tu es enseigné. Tous les dimanches, on te fait des séminaires. Donc c'est pour pouvoir te renforcer. C'est pour t'aider à marcher dans la justice afin que Dieu prenne plaisir en toi. Le Seigneur dit, la lumière brille au milieu des ténèbres. Les ténèbres se font épaisses parce que Dieu cherche des portes pour visiter cette génération. Oui, comprends ces choses. Et j'aimerais qu'on aille dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22, à partir du verset 7. Lisons. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte, par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Il y aura toujours l'injustice sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui voudront pratiquer l'injustice. Mais il y aura aussi la justice sur la terre. Parce que Jésus n'a pas travaillé en vain. Il a des disciples qui pratiqueront la justice, qui se sanctifieront pour être dignes d'avoir part à l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur nous donne à nous un bonheur. Mais Dieu te donne un bonheur. Qui veut le bonheur? Je pense que même ceux qui marchent n'importe comment, ils cherchent un bonheur en fait, ils disent tout ça. Mais Jésus nous donne le vrai bonheur. Il dit, heureux. Voyez, le bonheur vient de heureux, non? Mais oui, le bonheur vient de heureux. Donc si tu entends heureux, cherche la suite. Si tu veux être heureux, cherche la suite, parce que ça sera expliqué. Donc maintenant, parce qu'on peut te dire, heureux, le diable il va te dire, heureux celui qui fait ceci, cela, il aura tel plaisir et tout ça, tout ça. Bon, ça c'est leur bonheur à eux. Mais ton bonheur à toi, heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ça veut dire qu'il y a une ville qui est préparée. Ça sera par la porte. Ça dit que tu rentres légitimement là où on t'attend, là où ça a été préparé pour toi. Tu n'es pas comme des voyez, parce qu'il y a des gens, tu veux rentrer quelque part dans une invitation, où est ta carte, où est ceci, cela. Là, là-bas, ce n'est pas une carte qu'on va montrer. C'est la robe. Ça dit que c'est la robe qui va parler. Donc, il dit, ici, n'entre que ceux qui ont une robe blanche. Et c'est pas blanchâtre. Hein? Ce n'est pas blanc cassé. Hein? Une robe blanche, même étincelante. Bon, ça veut dire que, voilà, on arrive, les anges sont là. Vous savez, les anges, ils ne blaguent pas. Il n'y a même pas moyen de négocier. Je te le dis, pas moyen. Donc, tu arrives, ta robe blanche, alléluia, tu rentres parce que tu es l'épouse, tu rentres, l'époux t'attend. Mais lorsque tu arrives avec ta robe blanche tachetée, ça dit qu'il y a des taches, parce que l'injustice produit des taches, l'impureté produit des taches, tu arrives avec ta robe, tu vas où? Mais la nouvelle Jérusalem. Ah bon, tu crois que la nouvelle... Mais regarde ta robe. Mais oui, ça donc, un tel m'avait fait ceci, c'est ça, je suis désolé. Il n'y avait pas du sang. Mais tu n'as pas voulu laver ta robe parce que tu étais occupé à l'injustice. Tu étais occupé à tes fornications. Tu étais occupé à tes adultères. Comment tu vas avoir le temps de laver ta robe? Il y avait du sang. Le sang était disponible. Le sang de l'agneau a coulé. Dans l'église, il y a le sang. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de te condamner par rapport aux choses que tu as faites. Mais est-ce que tu veux les abandonner? Est-ce que tu veux laver ta vie pour enlever l'adultère qui était là? Est-ce que tu veux laver ta vie pour enlever la fornication? Est-ce que tu veux... Parce que le diable t'enseigne que tu ne peux pas ne pas faire ces choses-là. C'est la réalité. C'est comme ça. Et même à l'école, aujourd'hui, on veut t'apprendre à faire tout. Lave ta robe dans le sang de l'agneau. Lave ta robe. Lave ta robe. Il y a du sang pour toi. Que tu sois jeune, adolescent ou enfant, tu entends ces choses, prends plaisir à te sanctifier, c'est ce que ça veut dire. Prends plaisir à apprendre la justice. Prends plaisir à être dans les voies de Dieu. Prends plaisir à imiter les saints. Prends plaisir, parce que c'est ça l'œuvre de l'évangile. C'est nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est nous délivrer de la puissance de Satan qui est le paganisme pour nous faire passer à la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est une puissance de justice qui produit la lumière, la vérité, qui secourt les faibles, qui donne du pain à celui qui a faim. C'est ça la puissance de Dieu, c'est d'écraser les œuvres de Satan, c'est de nous délivrer du péché, de nous revêtir de la nature de Christ. La puissance de Dieu est là pour te transfigurer, la puissance de Dieu est là pour te donner l'autorité sur le péché, car le péché c'est l'arme du diable. Tu dois vaincre ces choses comme ton Dieu a vaincu ces choses. Jésus est notre Père. Et nous voyons que les fils imitent leur Père. Et ils deviennent eux-mêmes des pères. Tu es là pour être un petit Christ. Oui, lave ta robe. Le péché qui enveloppe si facilement. L'indulgence au péché. Le compromis. Mon péché mignon. Mais oui, Dieu sait. Détourner la parole de Dieu de la vérité. On dira, oh Jésus, il a tout effacé. Ah bon? Il a tout effacé? Pourquoi tu écris encore ces choses-là? Il a enlevé? Pourquoi tu remets? Heureux ceux qui lavent leur robe. Dieu ne te force pas, mais il te propose le salut. Il faut que ton âme soit lavée, parce que la robe, c'est ton âme. Si ton âme est souillée, tu ne pourras pas rentrer. Et n'écoute pas les arguments du diable qui veut te faire croire. Vous savez, les églises là qui prêchent ces choses, qui prennent la Bible à la lettre, c'est des extrémistes, hein? C'est de ceci, cela et tout. Ah ben le salut, c'est extrême. Hein? C'est extrême. C'est une autre vie. C'est la sainteté. Mais oui. Mais si Jésus avait commis un péché, à ce moment-là, on pourrait se dire, il n'est pas possible de ne pas pécher. Mais lui, il n'a commis aucun péché. Donc, ce qu'il dit, et il a le pouvoir de nous sanctifier. Pourquoi tu veux garder tes péchés? Oui? Il y a d'autres qui suivent, d'autres maîtres qui ont commis des péchés. Et c'est pas évident que ces maîtres-là, d'ailleurs, n'arrivent pas à pouvoir les délivrer du péché. Et qu'ils font pas mal de choses qui sont à l'encontre de ce qu'il nous a enseigné. Oui, l'homme ne peut rien, c'est un pécheur. Mais Jésus, ton Dieu à toi, oui, celui qui aime tous les hommes et qui parle de paix avec tous les hommes, celui-là, on ne doit pas le glorifier. Dans ta vie, pas seulement le dimanche, parce que les hypocrites peuvent se faire ça aussi. Non, dans ta vie de tous les jours, dans ta maison, lorsque personne ne te voit, est-ce que Jésus ne va pas être glorifié? Est-ce que Jésus ne va pas être glorifié dans ta sexualité? Oui. Tu veux que le diable t'apprenne des choses encore? Oui. Oui, dans ta sexualité, Jésus va être glorifié. Les gens qui se croient que le péché est plus fort que toi, je ne peux pas m'arrêter parce que ceci, cela. Mais il y a des gens à côté de toi qui mènent même toute une vie sans faire ces choses-là, par consécration à Dieu. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que ton corps a besoin de ces choses? C'est le diable qui a besoin de ces choses-là. Oui, c'est le diable qui a besoin de ces choses. Le Seigneur a dit, tu m'as formé un corps, voici je viens pour faire ta volonté. Mais est-ce que Dieu même veut te priver d'une telle vie? Il a préparé pour toi des bonnes choses. C'est toi qui es lié dans tes péchés, qui n'arrive pas à rentrer dans ces choses que Dieu a préparées pour que tu sois dans l'accomplissement. Dieu veut te rendre heureux, Dieu prend plaisir en ton bonheur. Si Dieu veut te délivrer des adultères, des fornications, c'est bien pour te donner ta femme ou ton mari. Est-ce que Dieu est contre ces choses? Oui, il veut que l'humanité puisse se développer. Sortons de l'injustice. Sortons de la manipulation du diable. Cette génération a besoin de nous et de l'exemplarité. Il est temps maintenant d'affirmer chacun sa foi, chacun son choix, chacun son Dieu. Et nous allons non seulement glorifier le Seigneur et vivre dans les voies de Dieu, nous allons nous opposer à leurs idéologies. Oui, nous allons nous opposer à leurs idéologies. Pour aider les plus faibles. Nous allons nous opposer. Oui. À leurs idéologies. Et nous allons nous opposer. Et nous n'accepterons pas qu'on vienne maintenant inculquer dans l'esprit des enfants ce qui est le péché, l'injustice, le péché, l'impureté, toutes ces choses. Nous voulons au contraire que les gens se consacrent à Dieu et vivent une autre vie qui est juste, et une vie paisible aussi. Il n'y a pas à se traumatiser, à aller poursuivre le vent. C'est le traumatisme du diable pour tourmenter les gens avec des sexualités à outrance, où même les enfants sont préoccupés à leur âge déjà avec des histoires. Jésus veut délivrer l'Église de ces choses, et la jeunesse doit rechercher cette paix. Tu as besoin de pouvoir t'élever toi-même demain, que tu sois capable de diriger même ce pays. Mais il vaut mieux déjà être calme au-dedans de toi.
Parce que Dieu a une femme pour toi. Elle est préparée exactement pour correspondre à ton leadership. Et lorsque tu seras à la tête du pays, il n'y aura pas certaines choses. Oui. Ça se prépare. Ça se prépare. Depuis l'enfance, qu'il faut marcher dans les voies de ton Dieu. Que le Seigneur soit béni au milieu de toi. Que le Seigneur Jésus soit béni au milieu de nous. Nous allons nous mettre debout et nous allons remercier le Seigneur notre Dieu, qui est le champion de notre justice. Oui, que son nom soit béni, son œuvre est magnifique en nous. Il nous délivre du péché et de l'injustice, afin que nous puissions pratiquer les œuvres de justice et porter beaucoup de fruits pour notre Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, mon Dieu, je te rends grâce pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Tu as versé le sang. C'est pour que je lave ma robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et de rentrer dans la ville par la porte. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as délivré de l'injustice, de la méchanceté. Et je prends plaisir en toi. Et je prends plaisir dans l'évangile pour pratiquer la justice, pour marcher selon l'amour et selon la vérité. Je renonce à ma vie d'avant, ma vie d'injustice, ma vie de péché. Aujourd'hui, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et je lave ma robe dans le sang de l'agneau. Je lave mon âme dans le sang de l'agneau. Je renonce à la convoitise. Je renonce à l'impureté. Je renonce au mensonge. Sortez de mon âme. Je vous chasse en lieux arides. Je renonce aux idéologies de ce monde qui veulent m'enfermer dans le péché. Je lave ma robe dans le sang de l'agneau. Je renonce à la séduction. Je lave ma robe dans le sang de l'agneau. Je renonce aux passions de la chair. Je lave ma robe dans le sang de l'agneau. Et je suis sanctifié. Et je suis plus que vainqueur. Et je donne ma vie pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Je donne ma vie pour imiter Jésus-Christ. Je donne ma vie pour que l'Église avance. Je donne ma vie pour que le témoignage de Jésus-Christ soit élevé au milieu de cette génération. Je donne ma vie pour que d'autres âmes soient sauvées par la prédication de l'Évangile. Je donne ma vie pour bénir le juste, le saint, le véritable. Seigneur Jésus, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme soupire après toi et mon esprit se prosterne pour t'adorer et ma vie se consacre pour ta gloire. Seigneur, sois béni pour ton œuvre dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur et de toute l'humanité. Alléluia. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Tu nous illumines de ta gloire et de ta justice, Seigneur. Et nous acceptons, Seigneur, d'être des ambassadeurs pour ton royaume. Nous acceptons d'être comme toi, tes disciples. Nous acceptons de pratiquer les œuvres que tu as ordonnées sur nos vies sanctifiées, délivrées du mal. Nous acceptons ta justice et non pas la justice de nos pensées humaines souillées par la séduction et la malice. Seigneur, nous acceptons ta parole car elle est juste. Nous acceptons tes commandements car ils sont saints, Seigneur. Nous acceptons d'être guidés par toi tous les jours. Seigneur, que ta main soit sur nous, que tes yeux soient sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, Seigneur. C'est là ton peuple. Domine sur nous, Seigneur. Ne te tiens pas loin de nous, Seigneur. Souffle ton esprit.
esprit et libère la vie de tes saints, des impuretés, des abominations de cette génération, Seigneur. Allume ton feu en nous pour consumer, Éternel, toutes les semences du mal, Éternel, ô Dieu, et que la vérité soit trouvée en nous. Saint-Esprit, ô Dieu, convainc-nous de péché, convainc-nous de justice et de jugement, Seigneur, afin que nous puissions nous écarter du mal. Convainc nos enfants, Seigneur, convainc, Seigneur, agis sur cette génération, Seigneur, et sauve ton peuple de la perdition. Ô Père, merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Tu nous fortifies pour la justice. Tu nous fortifies pour la justice. Tu nous montres des voies droites que nous devons suivre, mon Dieu et mon roi. Sois glorifié au milieu de ton peuple. Soyez saints, car l'Éternel est saint. Soyez saints, car l'Éternel est saint. Soyez forts, car votre Dieu est vainqueur. Soyez remplis d'amour, car Dieu est amour. Soyez lumière, car il vous a donné sa lumière. Soyez dans la gloire, car il vous a donné sa gloire. Vous êtes l'église du Seigneur. Vous êtes les saints de votre Dieu. Et le Seigneur prend plaisir en vous. Allez, que cette paix puisse répondre. Que le témoignage soit. Et que beaucoup en soient impactés pour le salut des âmes. Gloire, honneur. Élévation et exaltation à notre Dieu. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour le CRC. Merci Seigneur pour ce temps nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.